peuplement de l'Égypte ancienne.
Le fait que les anciens Égyptiens aient été des Noirs nous est prouvé par plusieurs témoignages. On peut aussi démontrer ce fait par tout un ensemble de preuves. Je vous en citerai tout à l'heure quelques-unes, mais je vais commencer par les témoignages. Les Grecs, à l'époque classique, qui n'avaient aucun intérêt à nous présenter les Égyptiens sous un faux jour ethnique, nous les ont toujours décrits comme étant des Noirs. C'est le cas d'Hérodote qui a visité l'Égypte à une époque d'ailleurs où l'Égypte a perdu son indépendance. C'était sous les Perses, en moins 455, Hérodote a visité l'Égypte, il a trouvé que les Égyptiens étaient des Noirs. C'est dans le livre 2, autant que je m'en souviens, dans Euterpe, qu'il donne tous ces détails à trois reprises. D'abord, pour expliquer la présence d'un îlot de Noirs dans cette région. Et alors, Hérodote dit que c'était les Colches. Et c'était un fait intriguant pour les savants de l'Antiquité, les philosophes, qui se disaient, comment se fait-il, en plein 5e siècle, qu'il y ait un îlot de Noirs comme ça, au sein des nations blanches. Et Hérodote donnait, entre autres raisons, il disait que c'était d'anciens Égyptiens, et que c'est pendant les conquêtes de toutes nos histoires, qu'on appelait ces Ostrices, que les Égyptiens avaient mis ici une garnison. Ceci était consécutif, vous le savez bien, à l'invasion des Hyksos. L'Égypte avait été précédemment envahie par les Hyksos. Et c'est la 18e dynastie qui a donc expulsé les Hyksos. Et les Égyptiens ont créé des sortes de marches frontières aux extrémités de l'Empire pour prévenir de telles invasions. Alors, Hérodote explique que c'était les vestiges de cette armée, de ces garnisons, de ces Ostrices, c'est-à-dire de toutes nos histoires. Et il dit que la preuve que c'était des Égyptiens, c'est qu'ils ont la peau noire et les cheveux crépus, mais que ça ne suffit pas comme preuve, parce qu'en plus de ça, il y a le fait aussi qu'ils sont circoncis, etc. Alors donc, nous avons là un témoignage d'Hérodote très précis. De même, lorsque Hérodote parle de la fondation de l'oracle de Jupiter Amon en Libye. Il explique encore que ce sont deux femmes qui ont été volées par les Phéniciens à Thèbes. Les Phéniciens auraient pris deux femmes à Thèbes pour venir fonder l'oracle de Jupiter Amon ici. Hérodote dit que ces femmes étaient des Égyptiennes, parce que quand on nous dit que les femmes étaient symbolisées par des colombes, alors Hérodote dit que quand on nous dit que ces femmes étaient ou ces colombes étaient noires, on nous laisse entendre que ces femmes étaient égyptiennes. Il en est de même d'Aristote, le précepteur d'Alexandre, dans Physionomie. Il a laissé encore un témoignage montrant que les anciens Égyptiens étaient des Noirs. C'est le cas d'Eschyle, dans Les Suppliantes. Eschyle décrit l'Égyptien, n'est-ce pas, qui ramait dans les Égyptiades, qui donc comme des Noirs. Il en est de même de Diodore de Sicile, qui a vécu sous César Auguste, et de Strabon également, et Strabon pourtant était un chauvin. Mais Strabon, lui aussi, avait décrit l'Égyptien comme des Noirs. De même, Ammien Marcellin et Achille Tassius. Et la description d'Achille Tassius est intéressante parce qu'il donne un détail sur ce qu'il appelle les bouviers du Delta. Et ces indications nous donnent presque la certitude que cette population était probablement le peuple actuel. Et ceci vient corroborer tous les faits partiels que nous avions trouvés déjà sur l'origine des peuples, mais il les décrit comme des bouviers qui sont très belliqueux, qui vivent dans la région du Delta, et qui étaient déjà fortement métissés, il les trouve noirâtres comme les Éthiopiens, etc. Alors, je pense que les bouviers du Delta, d'Achille Tassius, ce sont probablement un rameau des peuls, et ceci pourrait être une piste pour la recherche africaine. De même, Apollodore également et Diogène Laërce ont déposé dans le même sens, ainsi de suite. Et si vous prenez le temps qui sépare Ammien Marcellin d'Hérodote, cela vous fait 800 ans, 800 ans pendant lesquels les Grecs et les Latins, Ammien Marcellin était un Latin, donc n'ont cessé de nous décrire les Égyptiens comme une population africaine noire. mélanoderme. La Bible, le témoignage de la Bible doit être pris en considération. Et la Bible nous dit, nous apprend de façon très nette que l'Égypte était habitée et l'Égypte était une nation noire. Prenez la Genèse, prenez l'Exode. La Genèse dit justement que Cam, n'est-ce pas, les descendants de Cam, ce sont Misraïm, c'est-à-dire l'Égypte, Cush, l'Éthiopie, Canaan, Put et Avila, n'est-ce pas, Saba, qui sont en Arabie, et Ludim, qui serait, n'est-ce pas, en Libye, avant l'arrivée du Libyen, le Coderme. Parce qu'il y a eu dans cette région-là, ce qui induit souvent en erreur, c'est qu'il y a eu un Libyen noir qui a précédé le Libyen blanc, qui n'est arrivé qu'à l'époque où les peuples de la mer ont commencé à envahir l'Égypte sous la 19e dynastie. Ensuite, le témoignage de la tradition arabe et musulmane. Il est certain que pour tous les savants arabes qui ont écrit pour toute la tradition musulmane, l'Égyptien ancien était des Noirs. Et même l'Arabie sabéenne, anté-islamique, était habitée par le peuple de Saba, qui aussi, du point de vue même du Coran, est considéré comme un peuple africain noir. J'en arrive maintenant, très rapidement, je vais aux autres preuves. Les preuves positives que l'on peut fournir montrant que les anciens Égyptiens étaient des Noirs, il y en a une qui résulte de mes propres investigations. Je m'étais dit que si les anciens Égyptiens sont des Noirs, on peut le savoir en étudiant la peau des momies. Effectivement, j'ai procédé à une telle étude et j'ai déposé la conclusion dans un article que j'en ai parlé aussi dans le cadre du congrès du Caire. C'est-à-dire que si vous faites des prélèvements, vous pouvez montrer des préparations de l'ordre de quelques microns, de quelques 4 à 5 mu. Vous pouvez éclaircir avec du benzoate d'éthyle. Vous pouvez regarder en lumière polarisée ou même en lumière naturelle. Si vous regardez en lumière polarisée, vous pouvez rendre fluorescent les grains de mélanine. Et il reste encore, quel que soit le traitement de la peau de la momie, il reste encore suffisamment de mélanocytes avec suffisamment de grains de mélanine pour qu'on se rende compte que c'est une peau qui contient un taux de mélanine incompatible, n'est-ce pas, avec l'idée d'une race leucoderme. Et une autre preuve, c'est le canon de Lepsius. Vous savez que Lepsius est un Prussien du 19e siècle, mais c'était un savant de bonne foi. Et je crois que nous devons rendre hommage aux savants de bonne foi, ceux qui ont le courage. Moi, je respecte l'objectivité. L'objectivité est une force qui n'est pas donnée à tout le monde. Il a établi ce qu'on a appelé le canon de Lepsius, c'est-à-dire des mensurations ostéologiques. Il a fait un quadrillage de l'Égyptien parfait et il décrit l'Égyptien parfait comme un nigricien.
Alors, rappelez-vous que les premiers grammairiens européens, en particulier allemands du 19e siècle, c'était d'ailleurs à la suite, je crois, d'un voyage de Leibniz au siècle précédent. Donc, Leibniz avait déjà constaté qu'il y avait une parenté entre le germanique et le vieux persan. Il l'avait vaguement perçu. Et au 19e siècle, les grammairiens allemands se sont mis à travailler et progressivement, on est arrivé donc à dégager ce qu'on appelle la famille indo-européenne au début du 20e siècle. Et on est arrivé par des méthodes de linguistiques rigoureuses à établir, n'est-ce pas, l'existence d'une grande famille indo-européenne. Alors, au début, il ne peut pas en être autrement. J'ai comparé le Wolof avec l'Égyptien ancien, on a dit qu'il fallait donc faire l'inverse, plutôt dégager une famille africaine et puis ensuite comparer cette famille avec l'Égyptien. C'est une façon de parler. Vous avez bien vu, comme si j'ai cité le cas des grammairiens allemands, c'est précisément pour montrer que une parenté est toujours perçue d'abord, entre des langues qui sont relativement éloignées, Et cette parenté peut être suivie de proche en proche et on arrive à mettre au point une méthode mieux élaborée pour dégager la grande famille. Alors, nous n'avons pas encore dégagé la grande famille africaine selon des méthodes scientifiques rigoureuses, mais la parenté que j'ai établie entre le Wolof et l'Égyptien ancien, et même entre plusieurs langues africaines et l'Égyptien ancien, c'est une parenté de type génétique. C'est-à-dire, c'est une parenté qui ne peut pas être fortuite parce qu'elle porte sur la morphologie et la syntaxe. Alors, la question que l'on pose est la suivante. Comment se fait-il que ces formes grammaticales soient conservées à travers le temps? Ça, c'est un problème d'histoire, mais que cette parenté soit évidente, qu'elle existe, il n'y a pas de doute. Alors, il y a le fait, je crois, pour répondre partiellement à cette question, on s'aperçoit que si les langues européennes ont évolué très vite, surtout les langues romanes, si à partir du latin, si le latin a éclaté en quelques siècles pour donner naissance aux langues romanes, c'est à cause des invasions barbares. L'Europe a connu des bouleversements sociopolitiques extraordinaires à la fin de l'Antiquité. Et des gens d'un autre parler sont venus qui ont bouleversé complètement le latin et qui l'ont déformé de plusieurs manières, et ça a donné naissance aux langues romanes. Alors, un phénomène de ce genre ne s'est pas produit en Afrique, et c'est la raison pour laquelle les formes linguistiques ont été conservées pendant un laps de temps si long. C'est de cette manière qu'il faut comprendre ce qui nous paraît au premier abord comme invraisemblable. Mais le fait existe. L'Égyptien ancien est une langue africaine, n'est-ce pas? Et c'est l'attestation écrite la plus ancienne des langues africaines. Et cela nous permet aujourd'hui donc de faire de la linguistique diachronique. Cela nous permet, disposant de ces formes archaïques en quelque sorte, nous avons la possibilité de faire de l'archéologie linguistique en quelque sorte à partir des formes égyptiennes. Et donc c'est d'un intérêt scientifique immense.
Donc, je peux vous dire ceci. Toutes les formes verbales égyptiennes ont survécu en Wolof, par exemple. Tous les classificateurs, j'ai pu établir une correspondance phonétique entre les classificateurs égyptiens et les classificateurs Wolof. J'ai pu expliquer la genèse du déterminatif Wolof, de l'interrogatif Wolof, donc de l'ensemble des 8 classes Wolof, et de toutes les formes de conjugaison Wolof à partir des formes égyptiennes, comme si vous aviez un bâtiment qui s'est effondré et que, ayant retrouvé le plan du bâtiment, vous arrivez à remettre chaque pierre à sa place. Alors, tout cela pour vous dire que la parenté de l'Égyptien ancien et des langues africaines est en fait démontrée, et l'Égyptien ancien n'est pas une langue sémitique. L'Égyptien ancien n'appartient pas à la famille de l'arabe, il n'appartient pas à la famille de l'acadien, il n'appartient pas à la famille du Libyen, il n'appartient pas non plus à la famille des langues indo-européennes. Ceci a été également démontré au Caire, et au Caire, l'égyptologie a bel et bien pris le virage et l'égyptologie a reconnu officiellement que l'égyptien ancien n'est pas une langue sémitique.